Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé. Fabien Guèze.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans le Check-up Santé. C'est une entreprise pas comme les autres qui rassemble les fonctions de centrale d'achat, de dépositaire, de répartiteur et de groupement de pharmacie. C'est Phoenix Pharma et son enseigne PharmaVie. Sa directrice générale France en charge du commerce de Phoenix et présidente directrice générale de PharmaVie, Lilia Bultil, est sur le plateau de Check-up Santé. Rattachée à Matignon, l'agence de l'innovation en santé a été créée en 2021 pour renforcer et dynamiser notre filière santé et faciliter l'accès des patients aux innovations. Sa directrice générale, Lise Alter, nous évoque sa mission. Enfin, c'est bientôt le grand rendez-vous de la communication santé, les 30 et 31 mars prochains à Deauville, les 32e Festicom Santé. Et son vice-président et directeur général, Éric Philippot, nous fait le plaisir de nous y plonger avant l'heure. Check-up Santé, c'est parti. Lilia Bultil, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes docteur en pharmacie à l'origine, vous êtes passé par HEC, bravo.
Oui, merci.
Et vous êtes à présent directrice générale en charge du commerce de Phoenix Pharma et présidente directrice générale du groupement de pharmacie PharmaVie. J'ai l'impression qu'avec vous, avec ces deux fonctions, vous êtes loin des 35 heures.
À peu près.
Par jour, non, on va dire
oui,
par jour.
Oui, c'est ça, trois jours. Okay.
On peut dire que le non, Phoenix Pharma, déjà, c'est un groupe allemand à la base.
Oui, tout à fait. Phoenix Pharma appartient à un groupe familial allemand qui œuvre dans la pharmacie depuis plus de 100 ans et d'accord. qui est présente en France depuis des années 99.
Depuis 25 ans presque.
Exactement.
Alors, c'est vrai qu'on peut dire quand même que le métier de pharmacien, il a pas été sauvé, mais il a été bien boosté par la crise Covid.
On peut le dire, ça a été vraiment le Covid a été le catalyseur, j'ai envie de vous dire, de la mutation dans la réaction chimique, de la mutation du pharmacien, puisque nous avons carrément évolué vers un vrai métier de service. Nous étions déjà des professionnels de santé et la crise Covid a montré l'importance de la pharmacie au sein du système de santé pour compléter.
Ça a remis à sa vraie place donc le pharmacien
aux côtés du médecin, bien ouais, évidemment.
Bien sûr, mais qui voit en premier quelques millions de patients par jour.
Tout à fait, la disponibilité, le maillage territorial a fait qu'on a été là, et grâce à nos confrères et aux grossistes répartiteurs qui ont assuré tous les produits.
Alors justement, donc le groupe Phoenix donc comprend trois départements, hein, j'allais dire trois entités. La première c'est la centrale d'achat, c'est ça?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que notre différenciation, c'est qu'on couvre toute la chaîne de valeur du médicament. Partenaire du laboratoire par la centrale d'achat, puis le grossiste répartiteur qui va apporter tous vos médicaments chez votre pharmacien, et enfin le pharmacien, notre réseau de 500 pharmacies chez PharmaVie qui va adresser le patient.
D'accord, le côté donc répartiteur, j'ai lu hein, que vous aviez racheté d'ailleurs OCP, qui est quand même répartiteur un des plus gros et le plus connu.
Effectivement, notre groupe qui était leader sur le marché européen, le groupe Phoenix, a racheté les actifs de McKesson en Europe, dont le groupe OCP en France. Effectivement, maintenant ça fait partie du même groupe. Nous avons donc deux marques, Phoenix Pharma et OCP Répartition au sein du groupe.
Donc la petite voiture qu'on voit dans les rues avec la croix verte,
c'est exactement ça.
Donc la deuxième c'est le répartiteur. Donc vous vous livrez évidemment les médicaments et surtout vous achetez aussi directement au laboratoire.
Oui tout à fait. Un grossiste répartiteur, on est très peu connu hein, dans le monde du grand public parce que en fait on achète les médicaments au laboratoire et on les revend aux pharmaciens. On est la grosse pharmacie des pharmaciens. Voilà, et nous assurons le bon produit au bon endroit au bon moment deux fois par jour pour l'instant à tout le maillage des pharmacies en
France.
Donc
vous avez été aussi en première ligne face à pénurie de certains médicaments?
Ah oui, nous la subissons effectivement régulièrement. C'est un vrai sujet aujourd'hui. 2023 va être l'année de la disponibilité du produit.
Mmh. Il y a des raisons particulières. J'imagine que c'est complexe, hein, mais des raisons un peu...
C'est très complexe parce qu'il y a divers facteurs et particulièrement la supply chain en général mondiale, et nous ne sommes pas les seuls en France à subir ces manquants. Mais aujourd'hui,
on parle aussi du prix du médicament qui est très bas en France et qui pousse un peu les laboratoires à vendre ailleurs.
Je n'irai pas sur ce terrain-là parce qu'en fait, en UK aussi, ils ont des manquants. En Angleterre, en Allemagne, ça touche. C'est un phénomène mondial aujourd'hui. Donc, le prix du médicament en France, c'est pas nouveau, qu'il est un peu plus bas que la moyenne européenne. Mais pour autant, on a les mêmes problématiques que les autres pays européens.
D'accord. Donc, la troisième entité, c'est donc les pharmacies, l'enseigne PharmaVie.
Tout à fait.
500 pharmacies, c'est ça?
C'est ça. Réseau de pharmaciens indépendants, libres comme nous, et qui...
À peu près 2000, je crois, 2000 pharmaciens sur les 500 pharmacies. Je crois, j'ai lu qu'il y a 500 pharmaciens qui travaillaient dans ces...
Il y a 500 pharmacies qui appartiennent au groupement PharmaVie, effectivement. Il y a 20 000 pharmacies en France.
Ouais,
et
Phoenix
a à peu près 3 000-4 000 clients.
D'accord.
Voilà.
Et les pharmaciens sont évidemment toujours propriétaires de
pharmacie. Oui, le capital n'est pas ouvert et ils sont effectivement propriétaires et indépendants.
Là aussi, vous êtes confronté, alors pas à la pénurie de médicaments, mais il y a une autre pénurie, c'est peut-être la pénurie des pharmaciens, voire même ça commence même aux études de médecine.
De pharmacie.
Aux études de pharmacie, pardon.
Oui, tout à fait. En même temps, c'est commun au début, donc il n'y a pas de souci. Effectivement, les étudiants aujourd'hui ont une certaine désaffection de la pharmacie, mais j'ai envie de vous dire en général, même pas de la pharmacie d'officine, mais aussi industrielle, et en peine et tout.
C'est assez flagrant quand même,
oui,
pharmacie.
C'est vraiment flagrant.
Où il manque, je crois, 1000 étudiants sur 3000.
Exactement, exactement. Ouais. Et ça pose énormément de problèmes en termes de responsabilité, parce que nous ne trouvons pas de personnes qui peuvent suppléer les titulaires de pharmacie qui doivent travailler du lundi au samedi soir.
Donc parmi les services que vous rendez évidemment à la population, vous rendez aussi des services aux étudiants, vous essayez d'améliorer l'attractivité de votre profession?
Bien sûr, sur plein de niveaux, et en particulier on est présent déjà au niveau des facs. Aujourd'hui on va carrément les chercher en fac pour leur montrer l'attractivité de notre métier de pharmacien d'officine ou dans de la répartition pharmaceutique, parce qu'on a aussi des obligations de service public. Et on les accompagne aussi dans leur installation. On a mis en place un dispositif de financement pour que les pharmaciens, les jeunes pharmaciens qui veulent s'installer, nous rejoignent et on les accompagne dans la formation, le troisième cycle, j'ai envie de vous dire, ainsi que le financement d'un apport, s'ils le souhaitaient et s'il était nécessaire, aux côtés des banques, etc., pour pouvoir faciliter l'accès à la propriété.
Parce qu'on a l'impression qu'ils dirigent un peu plus vers l'industrie pharma, par exemple, tous ces métiers...
On essaye de les attirer, vous savez, on est aussi en panne. Si jamais je peux faire un appel à candidature, surtout n'hésitez pas à postuler dans le groupe.
On va le faire, on va le faire pour
bon
vous aussi.
Bon vivre et bon travail.
J'imagine. Là aussi, votre rôle aussi s'est agrandi par ce qu'on appelle un petit peu les délégations tâches. Vous avez des services que vous rendez que vous ne rendiez pas avant.
Oui,
notamment dans le conseil aux patients.
Oui, tout à fait. On essaye vraiment. Notre mission, c'est d'accompagner les pharmaciens de notre réseau à être à la fois entrepreneurs, tout ce qui est management, gestion de l'officine, RH, parce qu'on l'apprend pas du tout en faculté, et aussi être toujours et encore mieux professionnel de santé. Et j'ai envie de vous dire, ce qui fait notre différenciation, c'est que aujourd'hui, on s'intéresse aussi aux citoyens. Parce qu'il n'y a pas que la maladie, il y a aussi le bien-être. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec notre marque propre, avec des conseils sur l'observance et sur la complémentarité des deux métiers, on peut aujourd'hui prendre en charge globalement le citoyen et le patient en particulier.
Au niveau de la pharmacie, de la parapharmacie?
Bien sûr, avec tous les produits...
Il y a un peu plus de crédibilité, moi je trouve, quand elle est en pharmacie, la parapharmacie.
Oh, définitivement.
Plutôt que dans les grandes surfaces.
Définitivement, de toute façon, vous avez toujours le besoin d'un expert et de compléter complètement les traitements, par exemple avec l'oncologie. C'est la semaine du cancer cette semaine, et chez PharmaVie on a été le premier à installer des corners et d'associer à la fois le médicament à tous ces produits qui accompagnent les vernis, les perruques, les dispositifs médicaux.
Les dispositifs médicaux, c'est
exactement,
vrai.
Exactement, pour vivre mieux.
Parfait. Et ben vous revenez quand vous voulez dans l'émission.
Avec plaisir. Merci de votre invitation.
Merci beaucoup, Lydia Butil, présidente directrice générale de PharmaVie. On va à présent accueillir Lise Alter, qui est directrice générale de l'agence Innovation en Santé.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Lise Alter, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes à la base, à l'origine, médecin de santé publique. Vous êtes titulaire d'un master spécialisé en économie et gestion des services de santé. Vous êtes passé par l'industrie pharma. Vous êtes passé quelques années par le laboratoire Lilly France, puis par la Haute Autorité de Santé. Et vous êtes à présent directrice générale de l'agence Innovation en Santé, donc qui est assez récente. Justement, dans quel but a été créée cette agence ?
Alors, l'Agence de l'innovation en santé, effectivement, a été lancée récemment, donc en décembre dernier. Elle s'inscrit dans le cadre du plan Innovation Santé France 2030, qui a été lancé par le président de la République en 2021, dans l'objectif vraiment de faire en sorte que la France soit reconnue comme une des nations les plus souveraines et innovantes en santé en Europe, avec pour objectif, effectivement, d'une part, de renforcer l'attractivité de la France en matière d'innovation en santé, et puis d'accélérer l'accès des patients aux innovations.
Alors, c'est une petite structure, mais gros budget, c'est ça ?
Exactement. Le plan Innovation Santé France 2030, donc la verticale santé du plan France 2030, c'est 7,5 milliards d'euros, orientés autour de trois grandes stratégies d'accélération sur les biomédicaments et la bioproduction, les maladies infectieuses émergentes et les menaces NRBC, le numérique en santé, puis il y a aussi un plan sur le dispositif médical innovant qui a été ajouté secondairement. Donc effectivement, des stratégies d'accélération majeures et une part importante aussi, plus d'un milliard d'euros dédiés à la recherche biomédicale pour vraiment assurer un continuum depuis la recherche, en passant par l'innovation et l'industrialisation.
D'accord. Donc une de vos missions, c'est quand même la prospective d'aller chercher un petit peu ce qui bouge, les innovations, c'est ça ? Il y a un boulot de recherche ?
C'est ça. Alors, au-delà de l'aspect pilotage du plan France 2030, l'agence a vocation effectivement à équiper l'interministériel, puisque l'agence est rattachée à Matignon et elle est ancrée au secrétariat général pour l'investissement.
Elle est même associée à trois ministères, non ?
C'est ça. Donc, on rapporte à travers le comité de pilotage de ce plan France 2030 au ministère de la Santé et de la Prévention, de la Recherche et de l'Enseignement supérieur et de l'Industrie. Donc, l'agence a effectivement, en matière de prospective, l'ambition vraiment d'anticiper l'arrivée des innovations pour leur permettre une meilleure intégration dans le système de santé, que ce soit sur le plan organisationnel et financier. Donc, vraiment, être en capacité d'anticiper et plus de subir l'arrivée de ces innovations.
Et quand on dit petite structure, c'est vous êtes suffisamment nombreux et nombreux pour aller scanner un petit peu tout ce qui se fait ?
Alors effectivement, tout ça c'est un sport d'équipe. L'agence ne va pas faire tout ça toute seule, bien évidemment. Elle peut compter sur sa communauté de partenaires. On est une quinzaine, mais c'est bien d'avoir une petite structure pour débuter agile qui va vraiment impulser cette dynamique et faire de la coordination, coordination de l'innovation en santé.
Donc après la prospective, c'est le financement.
Alors, il y a effectivement le suivi du financement France 2030, et puis également deux axes majeurs qui communiquent intimement l'un avec l'autre. C'est l'accompagnement vraiment des porteurs de projets prioritaires en santé, donc le cœur de cible.
Start-up, medtech,
exactement,
etc.,
biotech, medtech, numérique en santé. Donc accompagnement personnalisé. On a lancé à Medintech d'ailleurs ce programme, disons qu'on l'a précisé, avec trois grands volets, accès prioritaire, programme hors cadre et puis passage à l'échelle selon les besoins des entreprises.
Donc c'est un véritable financement de certaines startups qui candidatent pour venir chez vous et être aidées financièrement par vous, c'est ça ?
Alors en fait, il y a différents volets. Il y a un accompagnement effectivement financier via France 2030 et les entreprises.
Par exemple ?
Les entreprises. Alors il y a plusieurs volets, mais il y a notamment tous les appels à projets France 2030 et puis après il y a les aides en fonds propres, notamment via BPI et autres. Donc l'agence peut effectivement mobiliser ses leviers financiers, mais elle peut aussi, et c'est très important dans le domaine de la santé qui est extrêmement régulé et normé, bénéficier d'un accompagnement extra-financier, notamment sur le volet réglementaire. C'est pour ça qu'il y a un accompagnement.
C'est un
accompagnement extra-financier spécifique du secteur de la santé est extrêmement important et il a vocation à s'articuler évidemment avec.
Parce qu'un jeune start-up n'est pas toujours au fait des.
Exactement, et puis il faut anticiper les demandes des autorités sanitaires qui arriveront beaucoup plus tard, mais ça s'anticipe sur du temps long puisque la recherche clinique c'est plus de 20 ans pour mettre sur le marché.
Vous êtes en rapport avec d'autres agences européennes ou pas ?
Alors, européenne.
Il y a une collaboration effective.
Alors, l'agence de l'innovation est tout juste créée, donc on est en train de construire tout ça. Mais déjà, ce que je tiens à dire, c'est qu'il y a une collaboration avec les agences françaises. On met en place des partenariats avec notamment ANSM, HAS, notamment sur la base d'un label AIS pour permettre ensuite un fast track, donc un traitement accéléré des dossiers les plus prioritaires par ces structures-là. Et puis, effectivement, l'agence a vocation à s'articuler, notamment avec ERA en matière d'anticipation des risques sanitaires, mais aussi aussi avec la Commission européenne sur les enjeux de régulation en matière de produits de santé, bien évidemment, oui.
D'accord. C'est une de vos missions aussi d'essayer d'améliorer l'attractivité de la France en Europe et dans le monde.
Tout à fait. Et ça passe par différents volets. Donc, effectivement, il y a le volet financier, industrialisation, sécurisation des approvisionnements, mais il y a aussi le volet attractivité de la recherche. Ça, c'est très important, hein, redonner à la France ce rôle et cette place en favorisant notamment l'accélération de la recherche clinique. Donc, on met en place notamment un groupe de travail sur les nouvelles méthodologies, hein, pour gagner du temps dans ces mises en place, ces autorisations et les inclusions de patients dans les essais cliniques, notamment en capitalisant sur tout ce qui peut être digitalisé, décentralisé pour favoriser ces inclusions. Donc tout ça,
ça veut dire que vous constatez quand même qu'il y a un certain retard par rapport à d'autres pays ou pas ?
Ben, je pense qu'effectivement, pendant la crise Covid, il y a un certain nombre de constats qui ont été posés. Alors, on a quand même des atouts incroyables. Hein, et puis, il y a des choses notamment qui se font, notamment en politique de site. Hein, France 2030, là, a annoncé récemment le financement du premier biocluster de dimension mondiale, hein, le Paris-Saclay Cancer Cluster.
Bien sûr, ouais. Donc, voilà. Qu'on a déjà invité deux fois.
Exactement.
Oui. D'accord. Donc, la dernière chose, c'est la souveraineté. Ça, c'est un petit peu utopique ou pas ?
Non, je pense que c'est absolument pas utopique. L'actualité montre que c'est un enjeu majeur. Et d'ailleurs, le plan France 2030, c'est vraiment assurer vraiment l'accès aux innovations, le développement de ces innovations, tout en sécurisant effectivement l'approvisionnement des produits plus matures. C'est tout ça doit être concilié et travailler ensemble.
Parce que quand on écoute les TPE et PME de l'industrie pharma, hein, parce que les industries pharma, c'est pas que les big pharma, hein, 70% des... On les sent un petit peu prises à la gorge par la régulation, par des prix des médicaments trop bas, par pas mal de choses, par l'inflation, etc. Alors que les prix du médicament sont régulés, ces entreprises ont du mal à survivre. Est-ce que, par un moyen X ou Y, vous les aidez aussi, ou vous œuvrez à ce qu'elles soient un peu plus attractives, parce qu'on voudrait pas qu'elles, quand on parle de souveraineté, on voudrait pas qu'elles partent en dehors de la France.
Bien sûr. Alors, c'est vrai qu'il y a une mission qui a été lancée par la Première Ministre, hein, très récemment, sur justement la réflexion autour du financement des produits de santé de façon générale, des médicaments, et le volet innovation en fait partie. Et je pense que le fait même qu'une structure comme l'Agence de l'innovation en santé soit créée en interministériel, l'objectif c'est aussi justement d'aller aligner tous ces enjeux divers et de faire un peu la synthèse de tout ça et d'assurer un discours cohérent qui puisse être compris, y compris à l'international, sur l'attractivité de la France et la compréhension des différents enjeux et de la façon dont ils s'articulent les uns avec les autres, effectivement.
Bon, ben on vous invite dans un an pour constater les évolutions et les résultats
avec grand plaisir.
De votre immense travail, parce que c'est un très gros défi, non ?
C'est un challenge, mais je pense que c'est vraiment particulièrement important pour notamment l'accès patient et la transformation du système de santé. Je pense que c'est majeur pour notre pays.
Eh bien, merci beaucoup, Lisa Terre. Merci beaucoup, directrice générale de l'Agence Innovation en Santé.
Merci.
Eh bien, on va terminer avec Éric Philippot, qui est le vice-président et directeur général du Festival de la Communication Santé, ou alors Festicom.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Éric Philippot, bonjour.
Bonjour Fabien.
Et ravi de vous accueillir une nouvelle fois dans Check-up Santé. Vous êtes donc le vice-président et le directeur général du très fameux maintenant salon festival de la communication en santé qu'on appelle aussi le Festicom.
Le Festicom Santé.
Qui aura lieu le 30 et 31 mars à Deauville.
Exact.
C'est la 32e édition, c'est ça ?
32e édition. Et pourtant, c'est la 33e année du festival, parce qu'il y a eu une année blanche avec le Covid.
Oui. D'accord. Et depuis, évidemment, 32 éditions, ça veut dire 33 ans, la communication, elle a changé quand même ?
Alors, on l'a vu changer, évidemment, parce que quand on regarde l'origine du festival, il n'y avait que des campagnes produits, médicaments essentiellement. Et quand Dominique Noël, qui est la présidente du festival, a racheté en 2011...
On la salue, d'ailleurs.
Bonjour, présidente. Donc, quand elle a racheté en 2010 et qu'elle a repris vraiment les commandes du festival en 2011...
Je me rappelle, à Guy-Vincent Eugas.
Exactement.
Qu'on appelait GVH à l'époque.
Exact.
Ouais.
Et donc, c'est vrai que Dominique, non seulement a continué à faire de la communication avec le festival à toutes les parties prenantes, elle a mis aussi le patient au cœur de tous nos sujets et le professionnel de santé.
On a développé à 300% quand même ce festival.
Et on continue à le faire, Fabien. On continue à le faire.
Donc, c'est deux jours donc à Deauville. Donc, ça se passe comment ? C'est quoi le fil rouge un peu de cette... D'abord, qui vous invitez ?
Alors, on invite toutes les parties prenantes du monde de la santé, que ce soit...
Tout l'écosystème santé.
Tout l'écosystème est réuni. C'est aussi une des spécificités du festival, c'est que tout le monde vient se parler, que ce soit les laboratoires pharmaceutiques, les associations de patients, les médecins, les professionnels de santé, les établissements, les cliniques, bref, tout le monde se rencontre et c'est la spécificité du festival. C'est non seulement on se rencontre, on se parle, et surtout, il y a une bienveillance, et ça, c'est le travail de Dominique, évidemment, qui est aussi au cœur de cette réalisation.
Qui a un réseau.
Qui a un très bon réseau, effectivement.
Non, je vous ai posé la question, mais vous ne m'avez pas répondu. La communication L'évolution. En santé, elle a évolué de quelle façon, là?
Alors,
j'imagine
au début,
ces 10 dernières années, il y a eu des changements, des bouleversements énormes.
Il y a eu
deux
grands bouleversements, en fait. On a vu, bien évidemment, arriver le digital, mais avant ça, on avait vu, à partir de 2014-2015, arriver de plus en plus de campagnes de communication de sensibilisation. Sensibilisation, donc ce qu'on appelle...
Sensibilisation grand public, c'est ça.
Grand public, ouais. Pour faire du curatif, pour parler donc toujours effectivement des traitements, mais de plus en plus de préventif. Donc ça, c'est depuis 5-6 ans. Ça ne va pas vous étonner, Fabien, aujourd'hui, ce qui a vraiment complètement émergé, c'est le digital, notamment l'essor des réseaux sociaux. Et donc, il y a plein de sujets qui se partagent. Les personnes qui prennent la parole sur ces sujets sont aussi bien des médecins, des pharmaciens. Vous parliez de pharmaciens tout à l'heure. Donc, on a vraiment l'ensemble des parties prenantes et des patients qui vont venir partager. Et le digital permet une relation encore plus directe, si toutefois il n'y a pas de cacophonie qu'on appelle de l'infodémie, voire même des infox. Malheureusement, on est aussi obligé de trier.
Mais c'est vrai que, pour parler de l'industrie pharma, jusqu'à il y a 10 ans, elle communiquait beaucoup avec les médecins, assez peu, avec le grand public. C'est vrai qu'il y a un changement à ce niveau.
Ça, c'est un vrai changement. Ça, c'est un vrai changement qui s'est accéléré.
Quand vous parliez du préventif,
Voilà, je peux faire un cours d'histoire, mais c'est vrai qu'au départ, l'industrie pharma communiquait essentiellement avec les médecins. Et puis après, vous avez le droit de substitution dans les années 90. Donc, du coup, on s'est dit, mais comment on parle à un pharmacien? Et on voit qu'aujourd'hui, il faut savoir parler à tout le monde. Et avec l'essor des réseaux sociaux des années 2000 et des années 2010, aujourd'hui, on parle aussi avec le patient, les associations de patients, les sociétés savantes, bref, tout le monde, cet écosystème se parle entre eux. Et évidemment, quand ça se passe au festival, nous, c'est aussi notre mission, c'est d'être là pour mettre les meilleures communications en avant, pour que les bonnes pratiques se partagent, et ça en langue francophone.
J'allais dire, donc votre festival n'est pas seulement français, mais il est francophone.
Il est francophone depuis maintenant 2 ans, c'est un axe important. On milite pour le bon usage de la langue française dans le monde de la communication santé, et voire même dans les publications scientifiques.
C'est la raison pour laquelle il est figital.
Il est figital, exactement, Fabien, je vous vois sourire. Donc le meilleur du physique, le meilleur du présentiel. Donc du digital d'un côté, du présentiel de l'autre, et ça nous fait du
figital. Pour la francophonie, c'est plus adapté.
Et oui, en fait, cette notion...
Pour un Africain, Nord-Africain...
Voilà, on a eu beaucoup de pays. D'ailleurs, on aura le 31 au matin, la Belgique, qui va venir nous parler de comment ils travaillent sur la communication santé à l'heure du parcours de soins. Si vous venez à Deauville, vous verrez. D'ailleurs, ça ne s'appelle plus tout à fait le parcours de soins là-bas.
D'ailleurs, Jacob Santé est avec vous.
Exactement, vous êtes partenaire de l'événement. Donc la francophonie s'est invitée avec nous et c'est important parce qu'on est suivi dans plein de pays. La semaine de la communication santé est suivie dans plus de 30 pays au monde.
Donc, plus de 30 pays au monde. D'accord. Donc vous disiez tout à l'heure donc le fil rouge.
Alors le fil rouge, on a décidé avec Dominique Noël de refaire un point vraiment central sur ce qu'est la communication. Donc quand on parle de communication, on s'est dit nous sommes dans le monde de la santé, donc on a regardé la santé et ses processus de communication. Donc on a des émetteurs, des récepteurs, et entre les deux, il faut des processus de communication pour voir quel type de contenu, quel type de mécanique, quel type de support, quel type de médias, et comment tout ça s'orchestre. Donc on a refait un point global sur la saison 32 du festival, parce que maintenant ça s'étale sur une saison, et donc les processus de communication, on les a regardés un petit peu partout, les éléments possibles.
Il y a du contenu entre entre l'événement phare de l'année.
Exactement, le but du jeu aujourd'hui, c'est vraiment d'être, pas une marque média, mais on s'en rapproche parce qu'on est là toute l'année. Et donc le but du jeu...
Les réseaux sociaux facilitent tout ça.
Les réseaux sociaux facilitent, pas loin de 80 000 followers aujourd'hui.
Pour finir, donc il y a une remise de prix.
Alors, il y a une remise de prix.
C'est assez particulier puisque la remise de prix, il y a un jury qui est assez important.
Oui, il y a plus de 10 jurys parce qu'il va y avoir
quasiment
60 membres minimum du jury. Donc les 2 jours à Deauville vont se passer avec le jeudi après-midi, le concours, les concours de communication avec 10 catégories, le prix des start-up et des scale-up aussi, qui est en parallèle. Le vendredi matin, les conférences, les speed vision et les débats. Et si vous êtes bon en présentation, vous serez peut-être primé dès le vendredi après-midi sur la scène.
Donc il y a d'abord des pitchs.
Des pitchs.
Directement.
Et ça, c'est une spécificité du festival, c'est qu'on pitch réellement en physique. Ouais. Donc c'est pas des dossiers envoyés, vous venez défendre vos projets devant des professionnels de la communication santé.
Bon, on n'a pas besoin de souhaiter bonne chance à Fessicom, on sait que ça sera un succès.
On le souhaite en tout cas.
Mais c'est sûr.
Merci
Check-up
Fabien.
Check-up Santé, il fera.
Merci.
Merci beaucoup Eric Philippot. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.